Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche, un podcast d'interviews d'artistes et des acteurs du manga en France. Nous proposons dans ce podcast une nouvelle interview toutes les deux semaines, ainsi qu'une fois par mois une émission 100% manga avec les librairies Tsukimi, où on aborde des sujets divers et variés du manga dans une bonne humeur et à travers quelques jeux. Comme la coutume du podcast le veut, dans ce podcast on retrace le parcours de notre invité dans le monde du manga. Et aujourd'hui, cet invité n'est autre que Bitel. Bitel, c'est ce mec qui a pris le pari de ressusciter Mangasur, première émission de manga en France, anciennement proposée par le stream, et il a réussi là où Webedia a échoué, rendre l'émission financièrement pérenne. La transparence sur les coûts de l'émission par Bitel rend l'épisode encore plus pertinent et nous permet de prendre pleinement conscience du travail derrière ce genre de projet. Avant de commencer ce podcast, j'ai un message et même une annonce à vous faire passer. Le 25 mai à Lyon, avec le média GAC, on organise une animée partie au Pilo Hotel dans les pentes de Croix-Rousse. Au programme de l'événement, karaoké, quiz, tier list et évidemment plein de lots à gagner. Le lien est dans la description. On vous attend. Comme les choses sont bien faites, cet épisode a été tourné dans les locaux de GAC. GAC, c'est le média de news autour de la pop culture qu'on remercie grandement. Cette intro est déjà très longue, donc je m'arrête là et je vous souhaite un excellent épisode en compagnie de Bitel. Il y a 13 ans, tu sors une vidéo gameplay Pokémon jaune dans laquelle tu dis... J'ai un peu parlé avec Sifano sur MSN. Je lui ai dit que je voulais faire des vidéos avec lui, mais il a pas voulu. Tu l'as rencontré depuis ?
Ouais, on s'est rencontré pas mal de fois avec Sif. Et c'est même quelqu'un qui a été quand même assez important là-dessus. Hein. C'est lui qui m'a montré qu'on était capable d'avancer sur YouTube et de faire des trucs, tu vois.
Ouais.
Ouais.
Quand j'ai fait mes recherches sur toi, on tombe sur un YouTube fandom.
Ouais.
Qui dit... Et je pense que c'est l'objectif de cette interview, c'est de remettre à jour cette description. Mm-hmm. Parce que selon cette description, on te présente comme Bitel 2, ce qui est toujours le cas. Autrement dit, Bitel, de son vrai nom Maxime, ça c'est toujours le cas.
Tout à fait, jusque-là ça va.
Un YouTuber gamer de 18 ans et streamer sur GRTV, qui a tendance à parler fort, voire crier des fois dans ses vidéos. Je pense qu'il y a une petite update à faire. Il s'est passé des choses depuis ?
Écoute, on est quasiment à 10 ans après, puisqu'on est à 9 ans là. Donc ouais, il y a eu 2-3 changements depuis.
Et c'est pour ça que je vais te poser ma première question. Bitel, tu es animateur streamer.
Ouais.
Comment ça a commencé pour toi ?
Tu veux quoi ? Depuis le début ou...
Franchement, la création, le petit gameplay Pokémon que tu as upload sur YouTube.
Bah en fait, justement, c'est pour ça que j'avais parlé de Sifano à cette époque-là. C'est qu'en fait, je me balade sur YouTube et je découvre une vidéo de Sifano où il filme son écran. Et c'est sur Pokémon Bleu. Mmh. Et moi, je me dis, mais attends, trop bien, y a moyen de faire ça aujourd'hui sur YouTube. Bah écoute, moi aussi, je vais le faire. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai 14 ans.
Ouais.
Donc vraiment... Je n'ai pas mué,
ça s'entend.
C'est totalement différent d'aujourd'hui, ça c'est très clair. Mais c'est en fait un effet papillon de fou furieux.
Ah ouais ?
Parce que sans cette vidéo-là, aujourd'hui on ne serait pas ensemble en train de parler, tu vois.
Et t'aurais fait quoi ?
Très probablement de la cuisine.
De la cuisine ?
Ouais, je suis très fan de cuisine, j'adore cuisiner de base.
C'était ton plan
C'était sûrement l'un de mes plans, soit dans le marketing, soit dans la cuisine.
Ok, incroyable. Et donc, tu commences ce YouTube, donc on l'a dit, il y a 13 ans,
ouais.
Avec des let's play en boucle.
Quasiment que ça, ouais.
Du Pokémon, du Minecraft. En fait, t'étais streamer, mais pas sur la plateforme de streaming.
Bah, en fait, c'est parce que aussi à l'époque, en 2011-2012, le stream était pas aussi populaire que
ça.
C'est ça. T'avais eLive, qui était une plateforme sur laquelle vous avez pu potentiellement connaître Ken Bogard ou encore Mr. MV. Mais c'était une époque où, c'était encore très shady, tu vois. Le streaming était beaucoup plus lié au speedrun à l'époque, par exemple, ou au jeu de combat. Chose qui, du coup, a quand même beaucoup bougé hein, depuis maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, sur YouTube, c'était principalement tous les autres jeux de la Terre, entre guillemets. Tu
carrément.
Vois. Et du coup, moi, j'avoue que cette époque-là, c'est un peu une époque bénie parce que, en fait, je me suis retrouvé à être un petit gamin dans cette ribambelle de youtubeurs qui ont explosé sur cette époque-là et qui ont fait que bah aujourd'hui j'ai tous les contacts que je peux avoir dans ma vie professionnelle tu vois parce que je les ai connus en fait quand bah, ils étaient au même stade que moi
voilà,
et qu'on n'était pas du tout connus entre guillemets tu vois.
Mais c'est ça qui est ouf. Et toi, à titre personnel, tu l'as dit, la vidéo de Sifano t'a impacté, mais c'était quoi l'objectif pour toi de faire des vidéos en fait?
Moi, à la base, c'était juste de m'éclater. C'était juste de partager mes délires à moi parce qu'en fait, j'ai toujours été un gars qui parle beaucoup, qui essaie de faire rire les autres et tout. Ça a toujours été le cas et c'est toujours en vrai le cas dans ma vie aujourd'hui. Mais j'avoue que du coup, j'ai toujours eu envie de le proposer à d'autres gens que je connaissais pas forcément. Et du coup, bah, YouTube a été pour moi une plateforme totalement dédiée à ça. Et en vrai, quand j'ai démarré, c'était purement le simple but était de partager mon kiff avec les gens. Il n'y avait pas d'autre vision.
Et ça se voit parce que à 200 abonnés, tu ouvres un petit serveur Minecraft.
Ouais,
je trouve ça très mignon, tu vois, le truc de allez, on a 200 abonnés.
Exactement.
Et ça débute un peu ces initiatives de vouloir rencontrer sa commu.
Ouais.
Et je trouve que c'est un truc que t'as pas mal perpétué parce que t'as fait beaucoup de salons aussi en 2013, 2014, etc. Et notamment avec d'autres personnes qu'on connaît aussi aujourd'hui, comme Nutiteuf par exemple, mm-hmm. que tu connais de cette époque-là.
On s'est connus en 2012 pour être précis.
Ah ouais.
On s'est connus en 2012 à travers les MP YouTube. À l'époque, okay. YouTube avait des MP.
Je te jure,
t'avais des MP YouTube. On avait parlé. En fait, c'était la sortie, je crois, de Noir et Blanc. Donc 2012, 2013. Okay. Et on avait discuté comme ça par MP. On s'était mis à faire des vidéos ensemble. Et aujourd'hui, Nutiteuf, c'est encore quelqu'un que je connais encore, que je vois même encore régulièrement dans ma vie perso, en fait.
Et tu fais encore les jeux Pokémon?
Toujours. En fait, Pokémon, ça reste ma base. Hein, c'est le. Mais tu sais, je pense qu'on a tous un peu un jeu, tu sais, ouais. comme ça, qui est doudou. Et en fait, genre moi, ça, c'est la licence Pokémon. Même si aujourd'hui la licence Pokémon n'est plus ce qu'elle était, elle a beaucoup changé. Les gens la décrit de plus en plus. Ça reste pour moi une licence de cœur et que j'aimerais toute ma vie. Tu vois.
Mais est-ce que tu trouves que ça a changé ou est-ce que ça s'est adapté pour aller acquérir le nouveau public, les jeunes d'aujourd'hui, tu vois?
Il y a un peu des deux. En fait, il y a surtout Pokémon Go qui est passé par là.
Ouais.
Là où Pokémon Go a été quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé
t'es
dans
très
le paysage.
Joueur, toi, Pokémon Go.
Pokémon Go, j'y joue encore aujourd'hui. Ouais. J'y joue encore aujourd'hui.
T'as chopé un Groudon à Lille, d'ailleurs, il y a
pas longtemps. Ouais, j'ai chopé un Groudon à Lille Shiny, ouais. Mais ça, c'était marrant parce que pour le coup, quand tu vois que Pokémon Go est encore aujourd'hui ultra utilisé et que quand tu arrives dans une ville random en jour de raid et que tu vois 90 pélos,
ouais.
bouger dans tout l'île pour faire des raids, je te jure que ça calme. Hein.
Ouais, c'est
parce
vrai.
Que on est quand même... Attends, c'est quoi? C'est
2016.
Sorti en 2016, donc on est 8 ans après. Et le jeu tourne encore aussi bien, tu vois.
Ouais, enfin, c'est ouf. Mais c'est vrai que sens, quand c'est sorti, il y avait vraiment une vague, c'était terrifiant.
Ah bah, enfin,
tout le monde y jouait.
Tout le monde y jouait, et en vrai, il y avait une époque qui était extraordinaire, et ça, c'était une époque où je faisais beaucoup de choses avec Chelsea, Skyheart, David Lafarge, Nutiteuf justement aussi, où on allait donc du coup à la Villette et on faisait des vlogs.
C'est vrai que ça
sur
se
Pokémon
faisait
Go
ça.
Et on allait tous à la Villette à Paname, et parce que c'était le spot où t'avais le plus de Pokéstop, le plus de Pokémon, enfin c'était, et t'avais une quantité de gens sur cet été, mon gars, c'était lunaire.
Tu sais, moi j'habite dans un village.
Ouais.
Si je voulais aller à un Pokéstop, je devais changer de village.
Waouh.
C'est vrai que ma soeur, on prenait notre vélo pour aller, tu
et
vois.
Ça allait, ça allait pédaler en
la
vélo.
La mairie du village d'à côté.
Mais ça, c'est trop bien, en vrai. Ouais, mais du coup, tu vois, moi, c'est ce que je trouve ouf, c'est que mine de rien, du coup, en fait, ce Pokémon Go a débridé pour moi une image.
Complètement.
C'est,
du gaming, etc.
On est devenu, enfin, je trouve que les gens, en règle générale, sont devenus beaucoup plus cool avec le jeu vidéo à partir de Pokémon Go.
Parce que le jeu vidéo était plus que dans les chambres.
Exactement.
Et ça, c'est beau.
Et ça, ça a changé beaucoup de choses.
Et je pense que le streaming, c'est un peu ce même effet.
Le streaming, en fait, le streaming, c'est un peu particulier parce que le streaming, pour beaucoup, tu restes entre guillemets dans ta chambre ou dans ton local et tu streams, tu vois. Mais il y a un côté où j'ai l'impression qu'on a une accessibilité, une sociabilité qui est beaucoup plus élevée.
Et ben oui, et puis quand tu regardes par exemple Mangasur, on va prendre en commun parce que ça a été un gros sujet aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui est tout seul ou en web, genre vous êtes pas chacun dans votre chambre, vous êtes tous ensemble.
Non, t'as raison.
Et tu vois, il y a aussi ce côté communauté, et je pense qu'il y a des talk shows qui le montrent énormément, genre Popcorn, ils ont des invités qui passent, enfin c'est des gens de la télé qui viennent sur Popcorn, c'est devenu grand public sur le stream.
Ah oui, de ouf.
Donc c'est très cool, et je pense que Pokémon Go comme le stream a favorisé une meilleure image.
Ah oui, non, mais ça,
gaming,
c'est sûr,
des cultures type pop culture, etc.
Je pense que le stream moins que Pokémon Go. Mais je pense qu'on est sur une filiation plutôt similaire, effectivement.
À Pokémon Go, c'était un gros coup d'info.
Ouais, clairement.
Clairement. Est-ce que ça te parle si je te dis le CP59?
Le CP59? Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas là, tu vois.
Tu sais pas?
Alors là, mec, tu me paumes complètement.
Okay,
là.
Le CP59, c'est le stand que t'avais à la Paris Manga en 2014.
Waouh! Non, alors c'est Japan Expo, non?
Peut-être Japan
Expo.
Ouais,
c'est Japan Expo. C'est Japan Expo qu'on avait fait avec Nutiteuf, Pyrux, Galius.
Ah, vous étiez beaucoup, hein.
Je sais plus qui d'autre.
Est-ce que c'est à ce moment-là que ta chaîne, elle commence à exploser?
Alors, moi, ma chaîne.
Est-ce qu'elle a fait un gros bond à 30 000?
Ouais. Ouais.
Et après, bon, il s'est passé
bon,
des
après,
choses.
Bon, après, il s'est passé, mais on en ouais. reviendra parce que c'est un long chemin, ouais. Un long chemin semé d'embûches. À l'époque, on était tout simplement, ouais, en fait, c'était l'époque où Minecraft commençait à exploser, ouais. mais genre de façon véritable, puisque 2013, en fait, je rentre sur ce qui va changer ma vie, en vrai de vrai.
Ah ouais, carrément, tu.
Oui, parce que c'est là où j'ai fait mes contacts.
Okay.
C'est là où j'ai connu le plus de gens, c'est là où j'ai commencé à vraiment trader dans le milieu. C'est le moment où, par exemple, j'ai rencontré Jiraya, qui a été une personne décisive dans ma vie aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, ouais, c'était l'époque où je suis rentré sur Fils de Patrick.
Okay.
En fait, je rencontre Harry Lafranc avec mon meilleur ami qui s'appelle Rémi, que vous connaissez peut-être pour les anciens sous le nom de M5.
Ouais.
Et en fait, on rentre tous les deux sur Fils de Patrick, et à partir de ce moment-là, en fait, tout est débridé, en fait.
Fils de Patrick, c'est une aventure sur Minecraft ?
Alors, Fils de Patrick, en fait, c'était un serveur communautaire
ouais.
Où tu avais donc des gens qui étaient waitlist. On parle de Apier, on parle des gros noms de Minecraft de l'époque. Et c'était un mode pack, donc tout était modé. Et t'avais plein de choses à faire qui, du coup, rendaient le jeu totalement différent et beaucoup plus énervé. Et à partir de ce truc-là, en ouais. fait, est née, entre guillemets, la famille des Patrick. Et à ce moment-là, il y avait plein d'autres jeux qui déclinaient, typiquement Kill the Patrick.
Okay.
Et ça, Kill the Patrick, ça a été après l'explosion avec les UHC, qui sont, entre guillemets, les premiers Battle Royale. Hein, d'ailleurs, hein, il faut remettre le sésame.
C'est vrai que Minecraft, ça avait tellement de modes.
Ouais.
Que, enfin, tu vois, genre, il y a des personnes, et t'en faisais partie, qui jouaient pas à Call of, mais qui jouaient au mode zombie de Call of sur Minecraft, tu vois.
Oui, c'est vrai que j'ai même fait plusieurs vidéos dessus, oui. d'ailleurs, je crois. Après, j'étais un gros aficionados quand même, hein, du zombie de Call of,
ouais,
je te rassure.
Bien sûr.
Mais clairement, Minecraft, en fait, à l'époque, c'était une ouverture. En fait, Minecraft, à l'époque, pour vous situer un petit peu, Minecraft générait plus de 21 milliards de vues à l'année.
C'est vrai.
Genre, mais en fait, à l'époque, YouTube, quand j'avais 30 000 abonnés à l'époque, j'étais invité par YouTube parce que j'étais dans les plus grosses chaînes de gaming en France, tu vois.
Mmh.
Et en fait, on rentrait dans des events où on discutait avec eux et ils nous disaient, bah voilà, Minecraft a généré sur l'année 2013 plus de 21 milliards de vues. Toi, t'es là, t'es en mode. Comment ça, Minecraft a généré 21 milliards de vues?
Et donc, c'est pour ça que tu dis que ça a favoriser la création de ton réseau et
ouais.
de...
Ah oui, oui. Bah, okay. C'est là où, en fait, en gros, il y a eu un rapprochement entre des personnalités du streaming, puisque là, le streaming commençait à exploser.
Ouais.
Il y avait l'apparition d'Eclipsia, qui était devenu quelque chose de très,
bah,
de très puissant.
Skyheart sur LoL faisait beaucoup de viewers
Skyheart
pour l'époque.
Sur LoL, c'était incroyable. Les randomies de Gigi, c'était fou. Xari, la ranquette tarde, tous
Bien
ces
sûr.
Trucs-là, c'était des concepts qui ont été fous. Et justement, en fait, à partir de ce moment-là, je me mets à connecter avec ces gens-là, puisque je me retrouve carrément à aller à Ashford pour faire une session
T'as
test
été à
là-bas.
Ashford
J'ai été à Ashford, ouais.
Okay.
J'ai été à Ashford pour faire une session test avec Eclipsia, puisque y avait une réflexion de potentiellement m'intégrer à la télé à terme.
Ok.
Bon, ça ne s'est pas fait.
Ça
ne
s'est pas fait.
Il y a eu
t'avais
des
quel âge à ce moment-là?
J'avais 17 ans.
Ah oui, donc tu n'étais même pas rentré à l'école qui s'appelle Éthique.
C'est ça, tout à
okay.
fait. Donc okay. c'était l'année juste avant.
L'année juste avant, donc t'es en bac.
Je suis sur ma première ou ma terminale, ouais.
T'as fait quoi toi? T'as fait S?
J'ai fait L.
T'as fait L?
Ouais,
j'ai été rentré à l'éthique qui est une école d'informatique.
Tout à fait.
D'accord.
Mais tu vas voir, mais ça c'était encore un truc un peu filouté ça.
Parce que tu petit profil littéraire, t'aimes bien.
J'adore lire. De base.
Tu lis beaucoup?
Ah bah mec.
Autre que du manga?
Je démonte pas des mangas. J'en mange pas 100 par mois pour rien. Hein.
Tu lis 100 mangas
ouais,
par
facile,
mois.
Ouais, facile à peu près.
Attends, on va mettre le chiffre direct. Ta Mangatech?
Ma Mangatech, je suis à 2300 et quelques volumes.
Ah ouais.
1300 et quelques volumes, pardon.
Ah, c'est vrai.
Ça va.
Ça commence à se faire.
Ça commence à faire.
Tu vois, une petite expérience.
Écoute, ouais. Et en vrai de vrai, il y a beaucoup de mangas que je lisais à l'époque sur des sites de droïdes, tu vois.
Ouais.
Mine de rien. Il y a quand même, enfin, à un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. On a tous consommé sur ce genre de plateforme à une époque. Et clairement, sans ça, je n'aurais pas eu la connaissance aussi accrue que j'ai à l'heure actuelle sur le manga. Moi, je me rappellerai toujours de Caroline Segarra que tu as eu, qui commence à voir un petit peu qui je suis. On fait 2-3 émissions ensemble et elle me regarde, elle me fait mais comment t'as autant de connaissances
Et je sais pas si t'as cette impression-là, mais j'ai l'impression que tu retiens parce que tu vois.
Ah, je retiens beaucoup de choses.
Moi, ouais. Je retiens peu.
Ah,
genre,
ok.
Genre je lis.
Ouais.
Tu me dis un personnage, va falloir que tu me le décrives longtemps pour que je... ah, ok, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que en fait, c'est un truc. Bah ça, après, c'est. Tu sais, on a tous une mémoire différente.
Mm-hmm.
Et moi, pour le coup, j'ai la chance d'avoir une très très bonne mémoire sur des aspects très précis. Dans le sens où, par exemple, les lieux où j'ai vécu, je m'en rappelle très bien, tu vois. Je me rappelle de mes, de, parce qu'en gros, quand j'étais petit, j'ai habité au Canada pendant 4 ans. De mes 1 an à mes 4 ans. Pour te dire, j'ai des souvenirs de cet endroit.
Ok.
Alors que bon, entre 1 an et 4 ans.
Généralement, t'as pas trop de souvenirs.
T'es un petit peu quand même dans la sauce. Et pourtant, je me rappelle extrêmement bien de l'endroit où je vivais. Et en fait, du coup, j'ai des souvenirs qui sont très précis sur certains sujets, notamment les mangas, parce que c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine. C'est quelque chose que je lis depuis mes 8 ans. Et en fait, du coup, le manga, quand j'en lis un, j'enregistre la plupart des informations que je lis à chaque fois.
Ok.
Et après, en fait, je le ressors parce que bah ça reste dans un coin de ma tête, ou alors ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Évidemment, quand tu vas parler de mangas qui font un ou deux volumes, ça va être plus compliqué. Par contre, quand tu commences à me parler de séries qui font 10, 15 volumes, là, tout de suite, ça revient plus facilement, tu vois.
Ouais, parce que forcément, tu as de la répétition sur 15 volumes.
Bien
tu
sûr.
Les têtes, tu les revois, etc.
Un minimum.
Les one-shots, c'est un peu
différent. Les one-shots, c'est encore un peu différent, ouais.
On va revenir un peu en arrière, avant de parler de manga.
Bien sûr.
Comme je te le disais, ça sera plus structuré sur une fin de, d'interview pour les mangas. T'es en, donc, quoi, 2017.
Ouais.
Tu commences, en vrai, c'est l'apogée de ta chaîne.
C'est l'apogée de ma, ouais, c'est l'apogée de ma chaîne, puisque c'est le moment où, en fait, n'importe quelle vidéo que je sors fait entre 2000 et 10 000 vues.
Sachant que tu sors beaucoup de vidéos.
On sortait alors, mais ça, c'était le rythme de l'époque, on sortait 2 vidéos quasiment par semaine.
Mais c'est aussi différent parce que tu vois, il y a les vidéos que tu proposes, c'est des vidéos où, comment expliquer? On suit la vidéo pour voir un peu ta réaction, comment tu joues, etc.
Ouais.
On suit pas. Parce qu'il y a un montage qui est fait, parce
pas
qu'il y a
tout.
Un storytelling, c'est du spontané.
Pas du tout.
Et le fait que tu sois spontané, ça permet aussi d'avoir ce rythme.
Alors, en vrai, moi, tu vois, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. C'est que je comprends l'envie d'avoir des choses ultra produites, typiquement les vidéos qu'on a aujourd'hui sur YouTube. Mais la spontanéité est quelque chose qui, pour moi, est primordial dans la création de contenu, dans le partage de ce qu'on fait, tu vois. Et le moment où, en fait, on se retrouve avec des gens qui ont 90 équipes de prod derrière, pour moi, ça casse un truc, t'as moins de spontanéité.
Complètement.
Et à l'époque, moi, pour moi, c'était parfait. Tu sortais ta vidéo, tu faisais ton petit montage en deux spies, mais par contre, tu mettais du cœur là-dedans, tu vois. Genre, quand je faisais le montage, je prenais vraiment le temps, je regardais toute la vidéo, j'essayais de trouver les moments où je pouvais cut, faire un truc clean, un truc cool, et surtout faire en sorte que, l'intention que je mettais dedans, je la ressentais aussi, tu vois.
Ouais.
Et pour moi, ça, c'était le truc primordial. Et pourtant, en 2017, c'était les pires années de ma vie.
Ouais.
C'était des années qui ont été terribles entre le divorce de mes parents et tout le bazar. C'est le début de ma dépression.
Okay.
Mais pourtant, c'est pas pour. En fait, genre YouTube a été une thérapie pour moi, tu vois. Et c'est pour ça que justement, on y viendra pour éthique. Mais ça a été vraiment les pires années de ma vie, tu vois. Et il y a d'ailleurs, tu le vois, il y a un creux dans ma création de contenu.
Parce que tu passes le bac en 2015.
Je passe le bac en 2015 ou 2016, je sais.
T'es 97.
Plus. Ouais,
2015.
Donc 2015, ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
Tu passes le bac en 2015 et après.
Que je n'ai pas d'ailleurs.
T'as pas eu le bac?
Non, j'ai pas eu le bac.
C'est vrai?
Ouais.
Et t'as quand même pu être accepté. Attends. L'éthique, c'est quoi? C'est genre, c'est pas éthique comme école.
Je vais couper
ça au montage.
Bon non, laisse-le, arrête, assume. À un moment, il faut assumer, monsieur.
Je rigole.
On parle de spontanéité justement. Pourquoi je réussis à rentrer à éthique? Tout simplement parce que je suis youtubeur.
Okay.
Et qu'en fait, à cette époque-là, eh bien, ils veulent développer ce pôle-là.
Okay.
Et donc, du coup, moi, j'arrive et je dis, écoutez, moi, je suis motivé, je suis chaud pour travailler et tout machin.
Est-ce que avant que t'ailles plus loin dans ton histoire, tu peux expliquer ce que c'est l'éthique rapide?
Alors, éthique, c'est toujours une école, qui est spécialisée dans le marketing, le dev web, et tout ce que tu vas avoir autour, en fait, d'une gestion de produits web. Et donc, du coup, c'était une école où, justement, Link avait été, Nutiteuf avait été, et donc du coup moi j'avais pas mal de potes en fait, vu que Julien Anti était toujours dans mon cercle proche,
ouais.
Bah forcément on avait des connexions avec des gens d'éthique, donc du coup j'étais en mode bah vas-y let's go, je vais tenter éthique, et justement c'est là avec l'un de mes anciens partenaires de Gargarismod, qui est une autre facette de la chaîne YouTube, Pierre Trott, avec qui on lui était déjà à éthique depuis une année, et on a fait une colocation ensemble.
C'est
à ce moment-là.
Avec lui que tu te mets en coloc?
C'est avec lui que je me mets en coloc, okay. Tout à fait.
Donc changement de décor pour les vidéos.
Et un gros problème.
Ouais.
En fait, en 2016, j'étais quelqu'un qui streamait donc du coup notamment sur la GRTV, comme on l'avait dit à l'époque, qui était la Gaming Room TV, projet qui à l'époque était porté par Harry Lafranc et Nitro Serve. Harry Lafranc qui est l'un des fondateurs du coup de Fils de Patrick.
D'accord.
Du coup, tu vois tout ce recol, tout s'entremêle. Et
c'est
en fait, à ce moment-là, Donc moi je stream de façon régulière parce que on arrive sur quelque chose d'assez extraordinaire. On appelle ça la technologie du VDSL. Le VDSL qui te permettait en tout simplement en fait d'avoir une connexion supérieure à de la DSL avec la même technologie, juste c'était une technologie qui était boostée par les fournisseurs d'accès et du coup me permettait en fait d'avoir à l'époque en débit 80 en download et 20 en upload. Ce qui est complètement suffisant pour streamer. Et donc, du coup, de 2016 à 2017, je stream. Okay. Je stream quasiment tous les jours.
Sur Dailymotion ou...
Sur Dailymotion, ouais. À l'époque, c'était Dailymotion pour la gaming home, exactement. Et donc, du coup, on stream à fond. Vient le moment où, donc, du coup, je déménage parce que je dois aller à Etique, qui est situé à Montreuil. Et là, c'est la catastrophe.
T'as plus Internet.
Il n'y a pas la fibre, il n'y a pas le VDSL. Et le réseau, il est explosé au sol. J'ai jamais vu un réseau aussi
nul.
Ah mec, c'était genre 8 mégas et 0,20 en upload. Ouais. Donc vraiment, là, c'est la guerre. Parce que moi, en fait, comme je vous ai dit, donc à ce moment-là, j'étais en dépression. Et en fait, c'était... Je l'ai réalisé plus tard, donc je l'étais.
C'est pas le genre de truc que tu dis « Ah tiens, je suis en dépression aujourd'hui. »
Non, voilà, c'est ça. Et en fait, ce truc-là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était vraiment ma thérapie de ouf. Mmh. C'est qu'en fait, réussir à partager du contenu, streamer, créer, était quelque chose qui me permettait de ne pas penser à toutes les galères que j'avais dans ma vie et me permettait de sortir de ce truc-là. Donc là, j'arrive, j'ai beau avoir envie de réussir Etique, je n'y arrive pas. Je suis noyé dans mes problèmes, je me sens absolument pas à ma place, je peux plus créer de contenu parce que bah en fait on est en coloc, donc lui il a envie de jouer mais moi quand je fais un upload ça nique la connexion, donc peut pas jouer, enfin tu vois, il y a tout, c'est encore une fois c'est une vie en communauté, donc forcément tu peux pas
faire des concessions,
t'es obligé de faire des concessions, et donc du coup bah là moi je m'enfonce en fait tout simplement dans mon dans mon cafard mec. Ah mais c'était même, enfin du coup je me noyais dans les soirées, je me noyais j'étais vraiment pas bien, c'était pas bien, c'était
et ça c'est du divorce des parents, c'est le début.
Ouais bah oui, tu sais, en vrai quand tu connais ta famille depuis que t'es tout petit, que on te dit que le mariage c'est bien machin et tout, et qu'à 16 piges tu vois d'un coup la relation de tes parents exploser, tu quittes ta maison que t'as toujours connue où tes parents ils ont investi toute leur vie, et c'était une maison de fou furieux, tu vois, on avait une dinguerie, et enfin vraiment c'était top, et du coup t'as toute ta vie qui s'écroule en fait, et en fait à partir de là mes résultats, ils ont plongé.
Bien sûr.
D'où le fait que j'ai raté mon bac, du coup. Puis après, j'ai eu d'autres soucis personnels à côté, mais bon, ça, on va pas en parler. Mais du coup, en fait, tu fais tout un cumul, et du coup, t'arrives à Etique où tu te dis, c'est ma porte de sortie. En fait, non, c'était ma tombe.
Ah ouais. C'est vrai que la coloc, ça peut sembler comme un échappatoire, parce que tu vois, tu quittes l'entre-deux des parents.
Ah, et puis il y avait une vraie volonté aussi de partir.
Ouais.
Justement, il y avait un ras-le-bol du divorce et tout le bazar. Il y avait une vraie envie, tu vois, de m'émanciper et de me dire, OK, en fait, tant que j'ai YouTube, tant que j'ai Twitch, enfin, tant que j'ai la gaming room, j'allais très vite passer sur Twitch après. Hein. Tant que j'avais tout ça, j'étais en mode, OK, je peux m'en sortir, je peux réussir à créer, je peux réussir à trouver quelque chose.
Positif, ouais.
Et le fait
qu'on t'enlève ça,
tu m'enlèves ça, c'était fini. Okay. Il y avait plus rien. J'avais plus rien dans ma vie. Okay. J'étais juste une coquille vide qui faisait des soirées, qui essayait de noyer son chagrin dans des soirées, voir ses potes et tout, tu vois. Et tu pourrais demander à mes potes, hein, aujourd'hui, il y en a plein qui te diraient, mais ce n'est pas du tout le même Maxime qu'on a connu en 2016-2017 qu'aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Il y a même pas de débat, en fait.
Ouais, je comprends. Et t'en sors comment de cette période-là ?
Bah, grandi, mine de rien, parce que c'est une époque où je me suis dit, OK, comment est-ce que je rebondis ? Comment est-ce que je fais pour retrouver la création de contenu, reprendre ma chaîne, réussir à remonter quelque chose qui me fait kiffer, tu vois ? C'est, et donc, du coup, à ce moment-là, c'est j'ai trouvé un boulot. Mon père m'a aidé là-dessus. Je trouve un taf.
Dans quel domaine ?
Dans le social media management.
Ok.
À l'époque, j'avais 20 000 sur Twitter. En fait, juste ça permettait d'avoir une justification
te confiance,
et te disent ah oui, d'accord, ok. Donc il y a une vraie expertise des réseaux sociaux. Il connaît vraiment son truc et tout. Et le fait est que la page que je devais gérer est passée de 1 000 likes à 5 000 likes en même pas un an et demi, tu vois.
Solide.
Et on est sur quelque chose de professionnel. On est dédié à la photo. Enfin, tu vois, c'est pas un truc non plus ultra simple à mettre en place et faire en sorte que les gens se mettent à cliquer sur ce genre de choses-là. Donc, il y a eu une vraie stratégie et je sais que j'ai aujourd'hui une vraie appétence là-dedans et que je suis capable de réaliser des campagnes marketing autour du social media et tout le bazar. Ça, je sais véritablement.
C'est un truc dans lequel tu te sens confiance.
Ouais. Okay. Y a plus aucun problème là-dessus.
Okay.
Et ça, justement, c'est les années de YouTube, c'est les années à expérimenter des trucs sur les réseaux.
En fait, c'est Instagram. Sur les comptes perso, etc. C'est vraiment des crash tests.
Bien sûr.
Tu tentes des trucs, tu vois ce qui marche.
Bah, en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir autant d'outils qui nous permettent de tester très vite des choses et de réussir à les intégrer dans nos vies professionnelles sur la suite. Et en vrai, on est la première génération qui a autant de chances que sur cette
c'est vrai qu'on peut essayer hyper facilement.
Et on peut vraiment tenter plein de trucs. Donc du coup, moi, à ce moment-là, je tente ce job-là et ça va être mon job pendant 2 ans.
Okay.
Je trouve des arrangements avec la boîte pour continuer de streamer, machin, et
parce que tu récupères la fibre entre-temps.
Exactement. Okay. Vu que je déménage, en fait, je retourne dans ma terre natale, donc à côté d'Asnières-sur-Seine. Et à ce moment-là, la fibre arrive.
Okay.
Et là, mec...
C'est la révolution.
C'est le retour du plaisir.
Ouais.
Et en vrai, je te jure, j'ai vu des photos de moi entre l'époque où j'étais dans la coloc et l'époque où je suis dans mon premier appart solo. Mec, ça n'a rien à voir.
T'es libéré.
Ah, mais ça se voit direct. Mais normalement, tu devrais même le voir, toi, sur les vidéos. Tu le vois, je suis plus éclairé, j'ai plus de sourire, je retrouve la patate. Mais parce qu'en fait, je redémarre tout ce qui me faisait croire en moi. Je sais pas comment expliquer, mais... En fait, l'image que j'ai de moi-même est très liée au contenu que je crée.
Ouais.
Et le moment où je vois des gens accrochés à mon contenu, ça me donne confiance, tu vois. Mais je pense que c'est un peu comme tous les créateurs de contenu, on a quand même une relation assez particulière là-dessus. Et le moment où je revois des gens qui me suivaient à l'époque, qui commencent à revenir, mec, c'était...
Ça fait plaisir.
Ça a tout changé.
Ouais.
Ça a vraiment tout changé.
Ça...
Le premier stream que j'ai lancé, donc le 3 juin 2017, Ça a été le second souffle de ma vie.
Trop bien.
Ouais.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Et tu vas enchaîner 2 ans même, je dirais, de stream solo.
2 ans de stream solo, ouais. 2 ans de stream solo de 2017 à 2019.
Où t'as le job à côté.
Où j'ai le job à côté, tout à fait.
Exactement. Et en 2020, tu fais une vidéo.
Ouais.
La vidéo, c'est un peu une vidéo de nouvelle année, etc. T'annonces tes projets, que tu vas revenir sur YouTube, etc. Et surtout, t'annonces quelque chose qui est assez fort, je pense, dans une personne qui souhaite vivre de sa passion, etc. Ouais. Si tu dis, aujourd'hui, genre c'est officiel, je vide mon contenu.
Ouais.
Et ça, c'est parce que tu rejoins une structure que tu veux, dans laquelle tu vas rester un certain temps, qui a fermé il y a un an maintenant.
Tout à
de
fait.
Ça.
Quasiment un an, ouais.
Le stream.
Ouais.
Tu le rejoins parce que tu connais Jiraya.
Je le rejoins en gros parce que on part au Japon avec Gigi.
Okay.
On part au Japon avec Gigi et Gob, pour être précis. Okay. Jiraya et Gob, qui sont deux streamers. Gob, c'est streamer League of Legends.
Ouais, qui fait du ouais. Qui est top laner.
Qui est top laner, ouais, tout à fait. Et en fait, on part tous les trois au Japon. Moi, c'est le voyage de ma vie. C'est le voyage de ma vie.
C'est ton
parce
premier
que
voyage au Japon.
C'est mon premier voyage au Japon. J'y vais avec des copains. Le voyage, c'était le cadeau de mon père. Donc vraiment, tout était là pour me faire kiffer. Et donc du coup on débarque là-bas, on rejoint Mr B-Boy notamment,
okay. Hein,
qui est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi.
Qui est de Minecraft lui, non?
Qui vient de YouTube comme moi à l'époque,
ouais.
Comme moi de cette époque-là, YouTube, okay, Call okay. of, Minecraft,
ouais,
2011-2012, tous les let's play qu'il a pu faire et tout. Et donc du coup en fait on arrive au Japon et on commence à discuter, et avec Gigi vraiment c'était le sang de la veine à cette époque-là, on se fréquentait beaucoup, on c'est toujours un bon ami, aujourd'hui on se voit moins
bien
depuis
sûr.
La fin de le stream et tout, forcément tu vois, c'est ça change un petit peu les relations, mais on avait donc du coup une amitié qui était assez forte. Et en fait à un moment on discute tout simplement, je me rappelle, on est sur le balcon de notre BNB à Tachiegawa en train de fumer une clope, et là il me dit, et toi comment ça va sur Twitch machin et tout, t'arrives à t'en sortir? Je fais, écoute, bah ouais, c'est ok, mais j'ai envie de passer la seconde.
Parce que à ce moment-là, sur le stream, t'as quelques revenus par rapport aux dons, par rapport aux
ouais,
choses, mais c'est très minime.
En fait, j'étais porté par le jeu qui s'appelle Summoner's War, où j'avais une communauté qui était assez présente, parce que c'est comme ça, en fait, qu'avec Gigi, on a continué sur les années, c'est que Summoner's War nous a beaucoup liés, j'ai fait beaucoup de choses avec lui sur Summoner's War, donc du coup, c'est comme ça que la relation avait continué. Et donc du coup, moi j'avais ouais, allez, je devais gagner 200 balles par mois avec Twitch, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est
mais c'est pas
ça te permet d'acheter la webcam quoi.
Voilà, c'est ça, c'est t'es là, t'es en mode c'est cool, tu payes ta bouffe le mois, mais bon, tu payes pas ton loyer, tu payes pas tes sorties, tu vis pas quoi. Donc du coup,
Japon, petite clope sur le balcon.
Petite clope sur le balcon, on discute, et à ce moment-là, il me fait, écoute, faut que je te parle d'un truc. Je fais OK, il me fait, la JVTV va fusionner avec le stream. Donc la JVTV était la deuxième télé de Webedia qui était reliée à JVC du coup.
Okay.
Là où il y avait donc du coup Ken Bogard, Lamua et tout le tutti quanti.
Caroline était aussi là-bas non en ce moment.
Caroline n'était
non,
pas
Marie
faisait la crème.
Ouais, exactement la crème.
Et donc du coup on discute et il me dit, écoute, moi je suis sûr que tu serais capable de le faire.
Okay.
Je suis sûr que t'es capable de rentrer à ce moment-là parce qu'ils veulent relancer Manga sur. Et je sais que t'es trop chaud en manga. j'avais déjà cette réputation à l'époque de mec trop chaud en manga, tu vois. Et donc, du coup, à ce moment-là, on est un mois et demi avant la fusion. Et donc, du coup, la première émission de Mangasur se fait. Je ne suis pas là. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore dans les papiers.
Okay.
Gigi avait parlé de moi. Mais il y a une autre personne qui va être décisionnaire de ce truc-là. C'est Ken Bogard.
Bien sûr. Parce que c'est lui qui anime l'émission.
Lui qui animait l'émission et qui voulait la faire revivre. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a été décisif. On a un petit point que tu n'as pas abordé, mais mes premières chroniques manga ne sont pas sur Mangasur.
Je sais, c'est Tsuki no Sokutei-chi.
Ou alors,
est-ce que c'est ça?
Oui et non. En fait, c'était mes vidéos de lecture sur YouTube.
Ok.
Qui sont encore un petit peu différentes. Non.
Il y a encore avant?
C'est le scan média sur O-Gaming TV, mon gars.
Ok.
Et là, en fait, j'avais fait mes premières chroniques manga, notamment une sur Kingdom,
ouais.
puisque Kingdom venait d'être annoncé en France.
Donc, avec le coffret, enfin,
avec l'abonnement, le coffret, okay. Meian qui arrive en trombe et tout le bazar. Donc ça, c'était mes premières chroniques manga.
Okay.
Mes vraies premières chroniques en stream. Et en fait, de ces trucs-là, Ken s'est renseigné sur moi. Et en fait, en voyant ce que j'avais été capable de faire, m'a dit, en vrai, moi, ça fonctionne.
Okay.
On a fait une émission test, donc le 23 mai, je crois. On fait ce truc. Et là, il me dit, écoute, go, moi, tu reviens tous les jours. Toutes les semaines.
On s'entend.
Et là, il me fait, moi, tu reviens.
Bien sûr.
Tu reviens tout le temps, t'as ta place dans l'émission.
Et là, t'es content.
Là, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, je me mets à gagner de l'argent.
Parce qu'à ce moment-là, il y a un budget qui est attribué à l'émission, ouais, aux chroniqueurs.
Bien sûr.
D'accord. Ça fonctionne comment? Comme une pige ou un salaire?
C'était une pige. Donc du coup, vu que je faisais 4 émissions par mois, on avait 4 piges dans le mois et on envoyait notre facture à Webedia. Ce qui représentait quand même 600 balles par mois. Hein,
ah ouais.
Parce que c'était 150 euros la pige. C'était 150 euros la pige à cette époque-là. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Hein, je suis très clair là-dessus. Je suis très transparent. C'est même d'ailleurs l'un de mes points... fort, c'est que je préfère être transparent, notamment avec le revival de Mangasur, mais ça on va en parler.
Vas-y. Carrément.
Il y a tout un aspect où en fait on débarque sur Mangasur, et en fait à ce moment-là, moi c'est une perspective de vie qui s'ouvre. C'est d'un côté j'ai Webedia qui me rapporte tant, j'ai mon stream qui me commence à me rapporter vraiment de l'argent, ouais, parce que à ce moment-là Summoners War explose et on se met à taper des 300-400 viewers en stream,
ah ouais,
avec des quantités de subs hallucinantes.
Sachant que c'est on est en 2020 là.
Là, on est en 2019.
2019, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas eu l'explosion qu'il y a eu après.
Il
n'y
a même pas eu l'explosion.
COVID.
Exactement. Okay. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez conséquent, ouais, et qui fonctionne bien, tu vois. Et donc du coup, à ce moment-là, on commence vraiment à discuter de beaucoup de choses. Et notamment, en fait, d'une rupture conventionnelle avec mon employeur.
D'accord.
Parce que, en fait, j'étais en mode, c'est maintenant ou jamais.
Ouais.
Je n'ai jamais vécu de mon contenu. Ça fait quasiment 10 ans que je suis sur la plateforme, enfin que je crée du contenu.
Là, t'as une opportunité qui est structurée, qui est sérieuse.
Le moment. Ouais. Est-ce que c'est pas là que je suis capable d'enfin sortir l'épingle du jeu, tu vois? Et le fait est que c'était le cas, que j'ai eu raison, puisque en fait, je quitte mon job. Ma rupture conventionnelle tombe le 31 juillet. Je me retrouve à être partenaire Twitch le 1er août.
Genre vraiment,
vraiment tout s'est enchaîné.
J'ai jamais trop su parce que je connais pas non plus. Ouais. Comment c'est quoi partenaire Twitch?
Alors en gros, partenaire Twitch, ça te donne tout simplement déjà la vérification sur Twitch.
Ah, okay.
Et en plus de ça, ça te donnait, à l'époque, il y avait pas encore le statut affilié qui te donne maintenant l'accès au sub, mais à l'époque tu n'avais pas l'accès au sub. Donc en fait, tu avais besoin d'avoir le partenariat avec Twitch
pour pouvoir
rémunérer ton activité sur cette plateforme là.
Ok.
Voilà. Tu après avant à l'époque les dons étaient beaucoup plus mise en place.
Oui, c'est ça.
T'avais les dons avec PayPal et tout le bordel. Mais maintenant, les subs ont vraiment pris le dessus et c'est quelque chose qui, à nouveau, était déjà en train de prendre sa place.
Tu quittes le 31, t'as ta rupture conventionnelle, ouais, qui est signée. Ça veut dire aussi accès au chômage.
Exactement.
Et
je n'ai jamais touché.
C'est vrai?
Jamais. Je gagnais trop.
Ah ouais?
Avec Webedia, je me suis mis à gagner trop. Je ne pouvais pas.
En vrai, c'est la bonne manière de ne pas toucher ce.
Tout à fait. En vrai, chômage. Oui. En vrai, oui. Parce qu'en gros, pour expliquer, donc le mois d'août passe.
Ouais.
Le mois d'août, évidemment, c'est le moment où je passe partenaire, donc je fais un grand marathon 24 heures.
Ah, ok, c'est ça.
Il y a plein de subs qui tombent. Bref, je fais mon mois sans aucun problème. Puis en plus de ça, tu sais, quand tu fais ta rupture conventionnelle, tu pars avec de l'argent, ouais, tu gagnes tes, enfin tu récupères tes congés payés, machin et tout le bazar. Donc du coup, tu te retrouves quand même avec un petit matelas qui te permet de vivre 2-3 mois.
C'est ça.
Et en fait, pendant le mois d'août, j'ai le gestionnaire de la partie, donc JVTV, qui s'était rattaché à l'Eustream à ce moment-là, qui vient me voir, donc Frédéric Lu, aka Trunks pour ceux qui connaissent, qui me dit, écoute, bah non, on aimerait bien en fait t'avoir un peu plus. Et à partir de ce moment-là, je me retrouve à véritablement intégrer quasiment toutes les émissions de l'Eustream.
Ok.
À travers ce moment-là, en fait, je deviens une vraie personnalité de la télé. J'ai les directeurs de la télé qui me disent, on veut te signer toi avec lui, tu viens et comme ça au moins tu fais régulièrement
des
émissions.
Comment c'est t'es toujours à la pige ou t'as
toujours
un
à la pige
différent? Ok.
Toujours à la pige, mais là par contre du coup ça devient assez conséquent
parce que c'est beaucoup plus récurrent.
Parce que c'est beaucoup plus récurrent. Je me remets en gros à cette époque-là, donc de septembre 2019 à mars 2020 jusqu'au Covid quoi, je faisais à peu près 3 à 4 émissions par semaine.
Ok.
Donc on commence à être sur un sacré volume d'horaire. Ouais. Je faisais donc du coup le lunch play, je faisais Mensonge et Trahison, je faisais Manga Sur et je faisais
Nintendo.
Généralement comment?
Nintendo.
Alors les Nintendo, en fait, à l'époque c'était les Amiibro.
Ouais.
Mais en fait les Amiibro étaient pas encore décorrélés du lunch play. En fait le lunch play était, on va dire, un peu un incubateur où il y avait plein de jours thématisés. Et en fait, à un moment, les Amiibro sont sortis de cette case du lunch play pour devenir une émission à part entière.
Et comment t'expliques que la direction soit venue vers toi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en toi qui les intéressait sur d'autres émissions que Manga Sur?
Alors,
ce que je veux dire,
pour le coup, je pense que c'était la facilité que j'avais de lier des liens avec les gens.
Okay.
Dans le sens où en fait je connaissais beaucoup les gens déjà de base et donc du coup c'était très facile d'interagir avec eux.
En fait t'apparaissais comme si t'avais toujours été là.
Mais
dans le sens où en mode tu faisais pas le mec qui était pas serein parce qu'il venait d'arriver.
Non mais moi et ça pour moi tu sais, pour moi ça c'est un vrai conseil dans la vie. C'est n'aie jamais peur de rentrer dans une salle d'inconnu.
Mm-hmm.
Genre tu rentres dans la salle, tout le monde te connaît.
Okay.
Et comme ça au moins ça t'enlève cette angoisse de la tête. Tu te dis ok c'est bon. Je vais tout droit, je fais mon chemin.
Et c'était complètement à l'ouverture du resto de Marie. C'était tout l'inverse. Je suis arrivé, j'étais en mode, je connais personne.
Ouais, mais justement, faut vraiment se dire, ah, c'est pas grave.
Ouais,
qu'est-ce que ça change qu'ils me connaissent ou pas? Tout droit, tu vois, tu vas, tu discutes et tu discutes beaucoup plus facilement en fait en n'ayant pas de pression.
C'est ça.
Et en vrai, c'est
aussi, exactement. Tu vois, physiquement, t'es plus ouvert.
Et moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, hein, cette décision-là. Hein. Et je te jure que intégrer le stream quand t'as des Hugo Délire, des Xari, des Maxidan et tout le bazar qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Eve, je te jure que c'est pas si simple que ça.
Ouais.
Mais par contre, à un moment, bah juste, tu t'imposes, tu fais ce qu'il faut, tu montres que t'es là et puis basta, tu vois. Tu peux pas rester dans l'ombre en permanence.
Bien sûr.
Faut être capable aussi de montrer que tu n'es pas là pour rien.
Mmh,
et
que
en vrai
aussi, ouais.
Ce genre de choses là ça a été pour moi un peu libérateur et du coup je me suis imposé sur la télé à ce moment là en faisant plein d'émissions, en faisant les Zinzins le soir, en faisant des séances multi, d'autres émissions en plus avec Ken, et en vrai ça a été un moment de fou furieux parce que entre ma chaîne Twitch et Webedia je vivais ultra bien.
Et est-ce qu'il y a une corrélation, enfin je veux dire c'est sûr qu'il y en a une, mais il y a eu un impact sur ta chaîne Twitch, par ton arrivée sur Webedia, ta visibilité que tu vois que ça peut donner
Oui, oui, forcément, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais à moindre mesure. Dans le sens où moi, je suis la dernière génération de nouveaux arrivants sur le stream. Là où, en fait, les générations d'avant profitaient de ouf de l'exposition de le stream. Je pense à Ponce, je pense à Magla, qui ont été, en fait, des gens qui ont été propulsés en premier lieu par le stream, puis par le The Events. Mais c'était des gens qui ont bénéficié de ouf de la visibilité de le stream. Et moi et Junpei, par exemple, on était arrivés en même temps. On a moins eu ce côté ultra mis en avant parce que la télé commençait à changer. On arrivait sur une envie de montrer que la chaîne était une vraie famille et donc du coup on s'investissait beaucoup plus dans la chaîne que sur nos chaînes perso. Et c'est vrai que ça a un peu changé les choses. Mais évidemment qu'il y a eu une quantité de viewers qui m'ont découvert à travers ces trucs-là et qui se sont mis à me suivre sur Twitch et à suivre mes streams qui étaient que je faisais en plus, bien sûr. Ça, c'est évident.
Ah, ça tue. Cette aventure, elle va durer quand même 4 ans ?
Ouais.
À peu près ? Ouais, c'est
bah,
2019,
en vrai,
2023.
En vrai, oui, c'est ça. C'est quasiment 4 ans plein, ouais.
J'imagine que tu fais beaucoup de belles rencontres.
Ouais, de ouf.
Ça offre des opportunités ?
Bah, en vrai, Ken aujourd'hui est la personne que je considère comme le mentor de ma vie. Hein.
Ah ouais ?
C'est lui qui m'a tout appris. Dans la façon d'animer, dans la façon de créer, comment organiser mes chroniques, même si c'est probablement pas le meilleur, loin de là. Mais il y a un truc qui est, en fait, avec Ken, c'est marrant parce que c'est à la fois mon ami, mais en même temps quelqu'un pour qui j'ai un respect immense, tu vois.
Mm.
Et du coup, c'est une relation très particulière. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à m'aider et qui fera toujours ce qu'il faut pour m'aider, ouais. Mais qui à côté peut te paraître, tu sais, des fois un peu récalcitrant pour renfornier, alors que c'est un mec adorable de fou. Ouais. Tu vois. C'est vraiment quelqu'un d'ultra gentil qui a pas hésité une seconde à me prendre sous son aile. Vraiment ça pas.
Donc tu considères que ouais, il t'a formé, il t'a mis, ouais, il t'a à bonne école.
Il m'a mis le pied à l'étrier en tout cas pour devenir un chroniqueur, être capable de m'exprimer de la bonne manière, trouver les bonnes choses, trouver comment rebondir sur telle ou telle chose. Je sais pas s'il y a des codes. Je pense qu'en vrai les codes c'est toi qui les imposes, mais dans le sens où en fait tu crées tes propres codes sur ce genre de choses là. En fait ton émission tu la façonnes à ton image du coup. Donc forcément c'est toi qui imposes tes codes, mais il y a quand même une façon de faire qui est entre guillemets une recette qui permet de fonctionner, tu vois.
Ok.
Quand même.
Et t'arriveras à mettre des mots sur cette recette ?
Avoir confiance en soi déjà.
Ouais.
Avoir confiance en soi et surtout, quand tu es host, être capable de laisser briller ses chroniqueurs.
Ouais.
Pour moi, ça c'est ultra important. En fait, oui, tu vas être la personne qui va être centrale et qui va diriger le tout.
T'es le mec qui fait les passes dans une équipe de foot.
Mais exactement. En fait, c'est toi qui fais les passes décisives. Et réussir à englober tout un cast et faire en sorte de leur donner la parole au bon moment, réussir à les couper, parce que des fois, frère, vous êtes chiant.
Mais, ouais, ça fait une demi-heure que tu parles.
Mais par contre, tu vois, c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier sur ce sujet-là, parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, ok, là, je suis capable de faire ce qu'il faut pour que l'émission fonctionne et soit dynamique.
Carrément. Caroline, quand j'ai eu l'interview, elle m'a dit le fait d'arriver sur Mangasur,
ouais,
ça m'a donné des opportunités auprès d'autres éditeurs, par exemple Glénat.
Ouais.
Est-ce que tu considères que le travail que tu as fait pour Cana,
ouais,
c'est similaire?
Cana, c'est similaire, oui et non. En fait, dans le sens où vraiment le premier job que j'ai eu avec avec une maison d'édition, c'est Glénat. C'est Glénat, puisque Glénat à l'époque voulait intégrer Mangasur à leur diffusion. Alors diffusion Twitch, puisqu'il n'y avait pas de Japan Expo puisque c'était le Covid. Donc du coup ils avaient fait une semaine spéciale de live pour l'été. Bah en fait j'ai été la deuxième personne qui a hosté.
Okay.
T'avais Ken qui était le host principal, qui faisait qui avait fait 4 jours sur 5.
Et le cinquième.
Le cinquième, on est venu me voir et on m'a fait écoute, c'est toi qu'on prend en host.
Ça tue.
Et à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui me remarque, que j'embrasse très fort. Le C, comme on l'appelle, qui va beaucoup changer de choses dans ma vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, le monde du manga va s'ouvrir beaucoup plus facilement à moi, en fait, à travers Hype Notice. Et donc, du coup, mon agent va être la personne qui va me permettre, notamment, en fait, d'intégrer ADN en tant que créateur de contenu pour eux pendant quasiment 2 ans. Et à partir de là, en fait, l'accès à Cana a été beaucoup plus facile puisque ADN est dans la même grosse boîte que Cana. Et donc, du coup, forcément.
ADN, c'est aussi Média Participation.
C'est aussi une partie. C'est en partie Média Participation, ouais, tout à fait.
Tout est lié.
Donc, du coup, à ce moment-là, en fait, Cana, pour eux, c'est juste un lien logique.
Ouais.
Et ils sont en mode, en fait, tu fais un super bon boulot sur ADN. Bah, on fait avec toi sur Cana.
T'es encore un agent ?
Je suis encore avec mon agent, oui, tout à fait.
Okay.
Bien sûr.
Okay.
Bien sûr, bien sûr.
Trop bien. Comme Marie aussi.
Tout à fait.
C'est le même ? Parce qu'elle aussi, t'as dit, on sait, son agent s'appelle aussi Charles, donc.
Non, du tout. C'est encore, okay, c'est encore quelqu'un d'autre.
Ok, carrément. Les lives Cana.
Ouais.
Tu les fais, tu les animes donc régulièrement.
Je ne les anime plus, malheureusement. C'est arrêté depuis 2024.
Depuis 2024, mais tu as fait quand même la Japan Expo qui était assez conséquente,
tout à
etc.
Fait, tout à fait. J'avais Glénat et Cana sur la Japan Expo.
C'est vrai ? Ouais. T'avais Glénat aussi, je ne sais pas. Pour toi, qui l'a dit, ça fait depuis que tu as 8 ans que tu lis des mangas.
Ouais.
Travailler pour les maisons d'édition chez qui t'achètent des bouquins, c'est vu comment ?
Pour moi, c'était un rêve, en vrai, de bosser avec ces boîtes-là. Maman, je suis désolé, je sais que tu n'aimes pas cette anecdote, mais ma mère jetait mes mangas.
C'est vrai ?
Elle ne voulait pas que je lise de mangas.
Elle les jetait ?
Ouais, elle jetait des mangas.
Ah, c'est dur.
Et bon, en vrai, elle les jetait, c'était une image. Elle les mettait à la poubelle, puis après les récupérait, mais elle les gardait dans un carton, tu vois. Mais j'ai l'image de ma mère en train de jeter mes One Piece dans la poubelle, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, non, mais c'est pas bien, il faut pas que tu lises ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à gagner ma vie et lui dire, écoute, maman, ben voilà, aujourd'hui, c'est les mangas qui me font vivre.
Ouais.
Ça a été honnêtement l'un des moments où, même si c'était un peu un pied de nez à ma mère,
la revanche,
elle était ultra fière de moi, tu vois.
Bien sûr.
Et du coup, réussir à bosser avec les maisons d'édition sur cet aspect-là, ce n'est que pour moi, en fait, l'accomplissement de tellement d'années de travail et de se dire, ok, je sais que je vais aller là, je sais que je peux le faire, je me donne les moyens, et vraiment, bosser avec eux, ça a été une opportunité de fou furieux.
Ouais.
Et en fait, mine de rien, toutes les années de Twitch, YouTube ont servi aussi à arriver à ce point-là, tu vois.
Et est-ce que tu sens qu'à partir du moment donc qui est début 2020 où tu vis du stream à aujourd'hui, il y a eu des moments où financièrement c'était compliqué?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Bah en vrai à la fin de le stream. Hein. La fin de le stream, ça a été très compliqué parce que ça a rimé aussi avec la fin d'ADN. Donc du coup, je me suis retrouvé avec deux employeurs en moins.
Ah ouais.
Donc ça a été la Zermi. Et c'est encore un peu compliqué, mais ça va de mieux en mieux parce que j'ai trouvé les moyens, j'ai trouvé les sources de revenus qui font que ça va mieux, et surtout en plus de ça, je continue de me donner. Et en vrai, Manga Sûr est aujourd'hui l'une des pierres qui me permet de vivre aussi, parce que c'est quand je suis arrivé fin mai 2023 et que je dis à Webedia, je récupère l'émission. Ça a été un peu compliqué parce qu'ils avaient oublié qu'ils m'avaient donné l'accord, et donc du coup ça a été un petit peu une bataille juridique au début. Mais
qu'est-ce qu'ils en avaient à faire à garder l'émission, eux ? C'est pour dire de...
C'était juste, je pense, bien pour nous casser les reins, tu vois. Donc, et en vrai, à travers ce truc-là, à travers la fin d'ADN, en fait chez ADN j'ai rencontré deux personnes qui sont aujourd'hui mes deux associés dans ma boîte de production, puisque j'ai lancé une boîte de prod.
J'ai des questions par rapport à ça,
je me doute. Et en fait cette période de creux entre mai 2023 et je dirais janvier 2024 a été très compliqué à gérer, parce que il faut garder la face, il faut rester serein, mais en ayant eu justement mes années de dépression, ça m'a, en fait, ce truc-là m'a appris à ne jamais abandonner et garder la foi, tu vois. Garder la foi en ce que tu fais. Parce que si toi-même tu n'as pas la foi en ce que tu crées et en ce que tu proposes, pourquoi des gens te suivraient? Et donc, du coup, à travers ce truc-là, ça m'a donné l'abnégation de rester fort, tu vois, dans mes propositions.
À continuer à streamer.
Et continuer de proposer des trucs, continuer de faire des trucs cool, tu vois.
Et comme tu l'as dit, tu récupères, Manga Sûr.
Ouais.
C'est quoi ta volonté derrière? C'est en mode t'es attaché à l'émission et tu veux pas la lâcher?
L'émission, c'est ce qui m'a permis d'exploser sur internet, en vrai. C'est ce qui m'a permis
de
vivre,
en fait.
Donc en fait, genre, c'est une partie de ma vie et je voulais pas la voir mourir. Je voulais pas la voir mourir. Les chroniqueurs autour de moi, Reza, Marie, Caro, Ken, Adibou, Nanix, personne voulait la voir mourir, tu vois. Webedia, quand ils nous ont dit c'est insponsorisable, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai, ce n'est pas vrai et ce n'est toujours pas vrai.
Ça coûtait combien à Webedia, ou au stream, de produire Manga Sûr?
Tu prenais donc du coup les 4 chroniqueurs autour de la table, donc ça fait des 600 €. Tu mets Ken, mais Ken il était en CDI, donc c'était un peu bizarre, on sait pas vraiment, on peut pas vraiment quantifier, tu vois. Mais tu mets un ingé son, un réal, t'en as par émission, tu devais en avoir pour 2000 et quelques euros, tu vois. Et ils pouvaient trouver des sponsors. On le sait aujourd'hui. Enfin, moi, je le sais. Maintenant que je produis l'émission et que je la vends, je le sais, tu vois. Et du coup, moi, je voulais pas abandonner cette émission-là. Et surtout, en fait, je voulais rendre ce qu'on m'avait offert. Je voulais faire en sorte d'être capable de rémunérer Caroline, Ken, Marie, Reza. Ils m'ont tellement apporté dans ma vie que je voulais leur rendre l'appareil. Et je me suis donné à fond sur cette émission-là pour faire en sorte qu'elle revive, faire en sorte qu'elle continue, qu'on garde le même ton, qu'on garde tout ce que vous avez connu sur Manga Sûr. C'était mon objectif.
Donc ça passe par plusieurs étapes. La première, récupérer les droits de l'émission.
Tout à fait.
La deuxième, trouver des locaux.
Alors les locaux, c'était très simple, hein, en vrai.
Très simple.
Ouais, parce que moi, en gros, je voulais. Il y avait une personne qui était à l'époque sur Manga Sûr qui a été évincée pour des sujets un petit peu cons, mais il s'appelle Yamato, qui est aujourd'hui un nouveau chroniqueur,
qui est revenu,
mais qui était un ancien chroniqueur de Manga Sûr, qui est même l'un des fondateurs de Manga Sûr, pour être précis, à l'époque de la JVTV. Et en fait, tout simplement, c'est simple, hein, il a cofondé Gozulting. Donc du coup, on se met à aller chez Gozulting, parce que Gozulting sont prêts à tout simplement nous offrir 3 émissions gratuites, le temps de tourner notamment des pilotes et de pouvoir montrer quelque chose derrière. Et à travers ça, en fait, derrière, tu déclenches tout, quoi. On a très vite signé avec eux. Le plateau, il y est, il y a les moyens, on fait ce qu'il faut.
Le plateau, c'est 800 euros par émission.
500 euros par émission.
500 euros par
500
émission.
Euros par émission, et c'est 500 € si tu mets un réal de chez eux. D'accord. Mais vu que du coup,
tu réalises.
J'ai ma boîte de production avec mon associé qui réalise, on cut les coups là-dessus.
Monter une boîte de production, concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors, monter une boîte de production, c'est simple, hein, c'est monter une boîte pour répondre aux besoins techniques et éditos potentiels de certains événements ou de certaines marques.
Toi, ça passe par quoi ? L'achat de caméra ?
En fait, mon associé avait déjà beaucoup de matos, donc okay. Du coup, il a rentré ce matos-là. Et donc, du coup, en fait, on est arrivé, donc, du coup, avec Aurélien et Valérie, qui sont mes deux associés. Aurélien côté édito administratif, moi côté purement édito et influence, et Valérie côté réalisation okay. et technique. Et à travers ça, en fait, ça nous a permis d'avoir un panel assez large de moyens. Et du coup, directement, en fait, à la sortie de Japan Expo, on venait de finir de monter la boîte, on avait envoyé tout, je crois que la création de la boîte c'est genre le 6 juin ou un truc dans le genre. Donc Japan Expo se termine, et à ce moment-là, je vais chez Glénat,
okay.
Sur leur stand Japan Expo, et je leur dis écoutez, faut qu'on parle, je veux qu'on refasse la New One Piece, mais ce sera avec nous, avec Mangasur, puisque Mangasur n'appartient plus à Webedia, Webedia n'a plus de télé. Ils font ok, d'accord, intéressant, on voit ce que vous pouvez donner et tout. Et en fait, ça, c'est le premier gros projet d'Oumaï, puisqu'on arrive en septembre.
C'est le nom de ta boîte de prod ?
Oumaï Production, ouais, tout à fait. On arrive à ce moment-là avec une vraie propale de refaire la New One Piece avec des duplex, mais cette fois-ci, d'intégrer 4 duplex et en gros, de devenir un petit peu le QG de la marine.
Ok.
De devenir le Gorosei. En fait, pour toute la New One Piece, du coup, en fait, le plateau de Mangasur a été l'endroit où les 5 doyens se réunissent.
Ok, ça marche.
Et en fait, du coup, il y avait 4 royaumes. Winnie, d'ailleurs, qui est juste derrière, était dans le dispositif. Il était à Toulouse et il y avait, en gros, un caméraman qui le suivait. Et en fait, lui, du coup, on voyait directement le flux sur le plateau et on pouvait communiquer avec lui. Et t'en avais 3 autres qui faisaient ça.
Ah, d'accord. Okay,
et le but était,
sens.
Donc, du coup, de vraiment faire un truc très connecté pour que la nuit One Piece, en fait, on voit ce que ce soit. Que ce soit quelque chose qui rayonne vraiment dans toute la France, tu vois, et de montrer justement la puissance du manga.
Et à travers One Piece, c'est quelque chose quand même, à chaque fois.
De fou. Et d'ailleurs, cette année, ça a été titré.
Ok.
Ça a été titré comme la meilleure promotion d'un livre dans le secteur.
C'est ouf.
Donc pour te dire à quel point vraiment la nuit One Piece a été folle.
Ah, One Piece, c'est huge.
En fait, ce truc là est le point d'amorce qui nous permet de relancer Mangasur. Parce que à travers cette OP, on a des fonds. Et en fait, ces fonds là, on va les dédier à Mangasur avec ma boîte de prod, le temps de monter et de trouver des sponsors. Donc pendant 13 émissions, l'émission, c'est ma boîte de prod qui l'a financée. Alors tous les chroniqueurs ont accepté de ne pas être payés pendant ce temps-là. Moi, je ne prenais pas d'argent. Mais l'émission a pu revivre parce que Glénat nous a fait confiance au tout début. Donc vraiment, Glénat a été quand même assez décisif dans la vision aujourd'hui de Mangasur.
Aujourd'hui, t'as insisté plusieurs fois durant notre échange sur le fait que le stream Webedia disait Mangasur, c'est pas sponsorisable.
Ouais.
Aujourd'hui, si on regarde, je dirais que par rapport à l'époque où vous étiez sur le stream, en termes de statistiques, il y a peut-être une baisse de 25%, quelque chose comme
ça.
Ouais,
il y a une jolie baisse.
33%.
Ouais, il y a au moins une baisse de 30%. Mais en fait, c'était pas ça le truc qui bloquait. Parce qu'en fait, pour moi, il faut juste être malin dans les sponsors que tu vas chercher. Et surtout, il faut être malin dans ce que tu vas vendre. Y en a qui pourraient prendre ça un petit peu de façon bizarre, mais en fait, Mangasur reste un produit qu'il faut financer. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre de continuer d'injecter 2 000 € de ma boîte dans un projet qui ne rapporte rien.
Bien sûr.
À un moment, il faut aussi être un petit peu logique sur cet aspect-là, tu vois. Et même si je rêverais de pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche, ce n'est pas le cas. À un moment, il faut être honnête, on ne peut pas vivre tout simplement comme ça. Et à un moment, il faut gagner de l'argent pour justement continuer de proposer ces contenus-là. Mais tout comme aujourd'hui, une émission qui est produite par la télé, en fait, c'est la même chose. C'est juste que, à un moment, nous, c'est sur Twitch, c'est à une échelle différente, mais il y a tout autant de personnes qui sont capables de mettre des billets sur la table. Et en fait, nous, cette émission-là, pendant des années, on nous a dit, en fait, elle a eu 2-3 sponsors sur le stream, mais rien de folichon non plus. Et donc, du coup, l'émission, entre guillemets, n'était pas suffisamment rentable pour eux. Et moi, le but était de montrer que, en fait, cette émission, quand bien même on fait 1 000 viewers de moins, en fait, la communauté, elle reste là, elle reste fidèle, elle reste active. Moi, en fait, je continue de me défoncer pour. Et aujourd'hui, l'émission, elle est suivie par 3 éditeurs. Elle est suivie par 3 sponsors. Finalement, il n'y avait pas de raison que Mangasur ne puisse pas vivre, en fait.
Et ça, c'est cool.
Et aujourd'hui, depuis un mois, je peux enfin payer les gens. je peux payer tout le monde.
Et ça, t'es content?
Mais c'est l'accomplissement, mec. C'est l'accomplissement de quasiment un an de travail.
Et quand tu signes des sponsors comme ça, tu les signes à l'émission? C'est un genre de forfait? C'est...
Alors, tu as plusieurs formules sur MangaSure. Tu vas avoir les formules sponsoring, où là, on signe sur plusieurs mois. Ouais. Et sinon, tu vas avoir les, typiquement, quand, et là, c'est plus côté éditeur, où ça va être une émission sponsorisée, ou une chronique sponsorisée, ou une diffusion de trailer.
Ok. Et là, en termes de sponsor, t'as une vision sur combien de temps de tranquillité, entre guillemets?
Là, pour l'instant, on a 3 mois.
3 mois, ok.
Mais c'est normal puisque c'est des périodes d'essai, en fait. Mm. On est sur des périodes d'essai. Le fait est que pour l'instant, il y en a un qui est extrêmement content de ce qu'on fait.
Ok.
Et donc, du coup, on peut imaginer potentiellement la suite sur 6 mois.
Ça, c'est cool.
Mais donc, du coup, on serait déjà sur, 9 mois de vie quasiment assurés de l'émission. En pouvant payer les gens.
À 2 émissions par mois.
À 2 émissions par mois. Et pour te dire, on réfléchit même à en faire une 3e.
Ok.
On réfléchit même à faire une 3e, puisque effectivement, avant MangaSure, c'était diffusé toutes les semaines. Maintenant, on est passé à un format bimensuel. Cette 3e émission, on réfléchit même potentiellement à faire un aspect JT News pour traiter vraiment de plein de news. Mmh. Quand tu regardes aujourd'hui MangaSure, c'est axé sur nos recos, sur nos chroniques et très peu de news.
Ouais.
Là, le but, ce serait vraiment de faire une émission par mois dédiée aux news et aux sorties du mois. Et de faire notamment peut-être un truc avec Manga Collect, avec le nombre de ventes machin et tout. Enfin, de faire un truc un peu plus analytique, mais qui pourrait être très intéressant aussi, je pense.
Un peu comme Caroline peut proposer de temps en temps avec Manga Collect, je crois qu'elle a fait quelques émissions.
Oui, tout à fait. Elle a effectivement ce concept-là. Mais nous, le but, c'est de le faire en public et surtout de rester sur un truc plus grand public.
Ouais.
En fait, le cri du mochi pour moi, et c'est pas du tout péjoratif quand je vais dire ça, c'est un peu plus élitiste.
Mm-hmm.
Il y a, en fait, par exemple, tu prends Fumble ou Prof Isekai, ils ont une vision qui est beaucoup plus acerbe, beaucoup plus pointue, tu vois, sur des sujets. Là où MangaSure, on reste plus grand public, mais c'est en même temps aussi ce qu'il faut, parce que, en fait, tu dois englober tout le monde. Si tu veux être général et rentrer dans le conscient collectif, il ne faut pas exclure les gens qui ne connaissent pas forcément telle ou telle chose. Il faut rester ouvert et vraiment ne pas se prendre la tête sur ah ouais il faut être pointu à ce point là machin et tout. Non, il faut rester libre sur cet angle là tu vois
tu reprends l'émission avec ta boîte de prod.
Ouais.
Ça veut dire premièrement que, comme tu l'as dit, c'est à tes frais,
tout à fait,
de frais de ta boîte de prod, mais ça veut aussi dire que il y a un changement d'animateur.
Ouais,
tu l'as dit, maintenant c'est toi, c'est plus Ken.
Tout
moi
à fait.
J'ai ma question qui est, Ken il l'a animé pendant pas mal d'années quand même, l'émission.
6 ans.
Il était ok avec le fait que ça soit toi
bien
qui
sûr
reprenne, ça a pas posé.
Sinon je ne l'aurais pas fait.
Ok.
C'est Ken qui m'a dit tu peux le faire.
Ok.
C'est au Paris Fan Fest d'ailleurs de l'année dernière.
C'est vrai.
Où on avait vraiment eu une discussion et je lui dis écoute, moi je sais que tu reprends les Nintendo Bro, on a repris les Nintendo Bro et on faisait d'ailleurs on c'était notre première scène avec les Nintendo Bro, le Paris Fan Fest, et on était en mode, moi j'étais en mode bah est-ce que tu veux récupérer mon gars sûr? Et il me fait j'aurais pas le temps, je sais que t'as envie de le faire. Et je lui dis, mais toi, tu me suis? Il fait oui. Fin de la discussion,
parfait.
Il y a pas besoin de plus, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça, donc, quand je te parlais de respect mutuel et de confiance. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est en mode, t'es celui qui veut le plus le faire.
Ouais.
Donc, pourquoi on me dirait non?
Clairement.
Donc,
c'est un peu Marie, ce qu'elle m'avait dit quand on avait fait l'interview, c'est MangaSure, c'est une petite famille.
Ouais.
Et je trouve ça marrant de, enfin, c'est mignon.
MangaSure, c'est vraiment une famille, hein. Tu sais, on essaie de se voir en dehors, on n'est pas que là en émission. C'est des gens, moi, en vrai, aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est des gens pour qui je pourrais faire beaucoup de choses dans ma vie, MangaSure.
Ouais.
C'est des gens pour qui je travaille, en fait. Genre, en vrai, je me crève, tous les 5 jours de la semaine pour aller chercher des gens, pour aller chercher de l'argent, pour faire en sorte qu'ils soient bien aussi dans leur vie, tu vois. C'est, en fait, oui, c'est cool parce que moi, ça me permet de vivre ma vie, de gagner ce qu'il faut pour vivre. Mais en fait, je pense aussi aux autres, tu vois. Je pense à tout ce que ça génère et tout ce qu'il faut parce que ils ont été là pendant 13 émissions de façon gratuite, à venir des fois de super loin pour Caro, à prendre du temps sur leur truc perso. Bah en fait moi je me dois de leur rendre l'appareil et de faire en sorte que ce soit aussi une activité qui soit lucrative pour eux, pérenne sur le long terme, pour qu'ils puissent intégrer ça et qu'ils puissent vraiment profiler leur vie avec MangaSure et faire et se dire que
se projeter,
c'est quelque chose qui vient vraiment apporter de l'argent dans mon revenu, tu vois.
Clairement MangaSure, si je dis pas de bêtises, en termes de statistiques, c'est la plus grosse émission de manga.
Ouais.
je trouve, à titre personnel, qu'à l'échelle d'Internet, ça reste une toute petite émission.
Tout à fait.
Moi je vois, hein, parce que j'ai aussi les stats de mon podcast, de mes vidéos et tout.
Bien sûr.
Je suis un sans stats, donc ça va. Mais
il n'y a pas de petite stats, mec.
Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ça reste de se dire que la plus grosse du secteur,
ouais,
ça reste assez petit. Est-ce que c'est ça, comment dire, comment toi t'envisages le futur de ce genre de d'émission, de show?
Moi je crois à la croissance potentielle.
Okay.
Je crois à la croissance potentielle, tout simplement parce que il y a de plus en plus de gens qui viennent sur Twitch, et puis mine de rien, l'émission YouTube fait beaucoup de vues, hein.
Les replays YouTube,
on reste entre quasiment
7 000, 10 000.
Entre 7 000 et 10 000, on reste vraiment sur des stats qui sont assez folles, tu vois, mine de rien. Et en fait, aujourd'hui, le manga sur YouTube, c'est quelque chose qui est très particulier dans le sens où tu vas avoir le chef otaku qui fait énormément de vues, tu vas avoir un viewer qui fait pas mal de vues.
Mon Corvo.
Mon Corvo, c'est très spécialisé,
c'est
tu vois.
C'est
très spécialisé One Piece, donc c'est encore un peu différent. Et puis après, j'en vois pas beaucoup plus d'autres, mais tu vois, c'est en fait ça reste une niche entre guillemets. Même si aujourd'hui le manga est de plus en plus démocratisé, on reste entre guillemets sur une niche. Mais du coup, plus on avance, plus je pense que l'on gagnera quand même en visibilité.
Okay.
Mine de rien, l'émission, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elle est là.
Okay.
Il y a beaucoup de viewers qui regardaient sur le stream, par exemple, depuis que je refais des TikTok, sont en mode, mais attends, l'émission, elle a repris, elle est où?
Donc, il y a
encore une perdition, tu vois, des viewers de
difficile
le stream. Mais en même temps, c'est pas simple.
Parce que tu passes
d'une chaîne à 1 million de followers qui est le stream, à ma chaîne qui en a 22 000.
C'est pas la même chose du tout, 22 000 de 2015, quoi.
Et genre, c'est des trucs, ma chaîne Twitch, elle est ouverte depuis 2012, hein,
ouais.
Donc, pour te dire.
Ouais.
Mais du coup, tu vois, t'as quand même un truc de se dire, attends, mais gros, moi je savais pas du tout que c'était encore là. Donc il y a énormément de personnes qui redécouvrent au fur et à mesure que Manga Sur existe.
Donc ça, c'est le challenge.
Ouais.
Ok, je vois.
Ça, c'est le gros challenge.
Ça m'amène à une autre, et je pense que ça sera la dernière question sur Manga Sur.
Ouais.
C'est dur d'aller chercher des sponsors.
C'est dur d'aller chercher des sponsors, oui et non. En fait, aujourd'hui, Internet est assez extraordinaire parce que ça propose énormément de choses. Ça propose énormément de marques. Et tu vas avoir, typiquement, tu vas avoir les marques qui aujourd'hui sponsorisent Manga Sur, qui sont Oli, qui est une marque qui aujourd'hui a une main mise de ouf sur quasiment tous les streamers. Ils sponsorisent quasiment tout Twitch, tu vois. Mais en même temps, c'est aussi des marchés qui sont ultra bénéfiques pour eux. Parce qu'en fait, c'est des marchés qui sont ultra ouverts à l'envie de tester. Et en fait, du coup, bah, ils te proposent ça, tu vas les voir, tu leur dis, bah, écoutez, moi, j'ai ce projet à financer, est-ce que ça vous chauffe? Eux, ils sont en mode, bah, c'est pas forcément notre cible. Et moi, j'arrive, je fais, bah, justement, c'est pas forcément votre cible. C'est le moment de vous faire découvrir d'un nouveau public. Et bah, là, tout de suite, t'arrives à accrocher. Parce que, effectivement, c'est un nouveau public qui va découvrir ce truc-là. Peut-être que ça va pas marcher plus que ça, mais derrière, il y aura quand même eu un affichage, tu vois. Il y aura quand même eu une connexion.
T'es un bon commercial?
Je sais pas si je suis un bon commercial.
T'oses.
En tout cas, j'ose les choses et j'hésite pas à aller chercher ce qu'il faut pour réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé.
Trop bien. C'est quoi la suite pour toi?
La suite pour moi, déjà, c'est de pérenniser encore plus Twitch,
ouais,
et de pérenniser Manga Sur. De faire en sorte que Manga Sur soit vraiment la vitrine numéro un sur Twitch du manga.
C'est aussi une belle vitrine pour ta boîte de prod.
Ouais, en fait, après, tu sais, en vrai, la boîte de prod aussi, elle a d'autres projets, elle a d'autres choses qui vivent à côté, tu vois. Donc, en fait, la boîte de prod, c'est Manga Sur, ça reste effectivement la vitrine technique parce que c'est là où on a investi de l'argent pendant longtemps, et surtout, c'est l'endroit où c'est le plus simple, en fait, de montrer ce qu'on fait. Mais la boîte de prod, on a déjà fait des trucs de fou. Par exemple, c'est nous qui avons prod le live de Michou des 9 millions, tu vois.
Ok.
Donc, et c'est nous qui avons tout fait.
Très cool.
Au niveau de la technique, c'est moi qui étais à l'édito, enfin. Tu vois, on fait d'autres choses à côté, tu vois.
Okay.
Mais Manga Sur reste l'une des pierres angulaires de Omae Productions. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de montrer qu'on est capable de faire des choses,
ouais,
tu vois. Mais la suite, vraiment, je dirais, ouais, c'est développer Manga Sur au maximum et réussir à intégrer Manga Sur dans les réflexions des conventions, même, tu sais, genre, par exemple, j'en sais rien, s'il y a une table ronde, venir sur notre plateau et le faire avec d'autres intervenants, c'est pas un problème, tu vois. Aujourd'hui, Manga Sur, c'est une marque. Ça fonctionne juste avec pas forcément tous les visages. Tu peux avoir deux personnes, ouais, trois personnes. En fait, tu vois, par exemple, on a fait une émission semaine dernière, on était que trois par souci de Yamato s'était blessé le bras, Ken n'était pas dispo, Marie était pas là. On était que trois. Il y avait Adibou, Caro et moi. Bah, l'émission, elle a fait des stats qui sont complètement convenables. Oui, elle a fait moins de stats que d'habitude, mais c'est pas pour autant qu'il y avait pas des gens qui étaient là pour apprécier l'émission, tu vois. Donc oui, effectivement, c'est une émission où on a fait peut-être 100 viewers de moins, mais
ça reste honnête.
En fait, ça reste une émission qui vit complètement. être capable en fait aujourd'hui d'imposer Manga Sur de manière plus sereine et surtout en fait de la faire rayonner sur autre chose que Twitch.
Carrément. On va changer un peu de sujet.
Ouais.
On reste dans le manga, bien évidemment.
Bien sûr.
Je vais te poser une question qui va peut-être te paraître familière, mais quels sont tes critères qui, pour toi, définissent que tel manga ou tel anime est un classique?
C'est marrant, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai tweeté il n'y a pas longtemps, cette
genre
phrase.
Genre dimanche.
Ouais, genre vraiment possible. Tout récemment, quoi. C'est un truc de ouf.
C'est trop galère de trouver ces questions soi-même. Je
suis vrai, tu sais qu'en vrai, quand j'ai posé cette question-là, j'ai été très surpris des réponses.
Ouais.
Parce qu'il y a, en fait, les gens n'ont pas du tout la même vision d'un classique.
Mmh.
Et c'est ça qui est ouf. Parce que moi,
c'est quoi, toi, ta réponse?
Moi, en vrai, pour moi, un classique, c'est quelque chose qui va influencer son média.
Okay.
Typiquement, Akira de Otomo a été quelque chose qui a inspiré énormément son média. Dragon Ball est quelque chose qui a inspiré son média. Quand tu vois les nombres d'enfants aujourd'hui que tu as Dragon Ball, c'est quelque chose qui a marqué son temps, tu vois. C'est, pour moi, c'est quelque chose qui me touche aussi profondément. Pour moi, en fait, mon classique ne sera pas forcément ton classique.
C'est,
et c'est ça qui est
classique?
Bien, tu vois. Moi, mon classique, c'est Gum.
Et tu sais que je vais pouvoir te dire que effectivement, c'est pas mon classique parce que je l'ai pas vu.
T'as pas lu Gum?
Non.
Gum, tu sais que c'est vraiment exceptionnel pour le
coup. Tout le monde me dit ça.
L'histoire de Gally qui essaie de trouver sa place dans ce monde ultra chelou et qui se rend compte qu'en fait, elle est juste là. C'est juste une bosse de ouf.
Ouais.
Mec, enfin.
Non, mais je suis d'accord, c'est incroyable.
Vraiment.
Et tu sais que c'est hyper drôle parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un invité me parle d'un manga. Et je dis toujours, je l'ai pas lu. Donc,
ouais.
Après, je crois que j'ai lu aucun manga, tu vois.
Bah, en fait, il y a plein de mangas qui, je pense, en fait, aujourd'hui, il y a tellement une diversité énorme que, en vrai, ça m'étonne pas que tu passes à côté de certaines choses.
C'est ça. Tu vois, là, la semaine dernière, j'ai enfin lu Akira. Je l'avais toujours pas lu.
Ah! Ah oui! Akira, j'avoue quand même, je trouve que c'est un truc que tu dois lire.
Ouais, ouais,
absolument.
Je suis d'accord.
Parce que c'est tellement, bah, déjà, le film, il est extraordinaire.
Ouais.
Le film sorti en 88 au Japon, c'est une claque dans la tronche. Mais le manga, quand tu lis l'anticipation d'Otomo, t'es en mode, mais ce type est un génie.
Ah, il est très fort. Puis au niveau dessin, c'est chargé. Hein. Il y a pas, tu vois, ça n'existe pas les trames pour lui. Genre,
ouais.
Ça c'est ouf. Il fait tout au stylo et moi.
Je suis
ça...
désolé. Il faut juste que je retrouve le nom de l'auteur de Gum.
Ouais, ouais, non, vas-y, carrément.
C'est en train de me détruire le cerveau.
Normal.
Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais trop fort en Yukito Kishiro. Voilà. Que j'ai pu rencontrer grâce à Glenna d'ailleurs.
Ah ouais?
Ouais.
Incroyable.
Et ça, je peux t'assurer que quand tu rencontres l'auteur de ton classique, ouais, t'as le cœur qui bat vite,
ouais,
là.
Bah, j'imagine. Je vais te poser une autre question par rapport au manga. Comment est-ce que un manga français pourrait devenir un classique?
Mais pour moi, il y en a déjà un.
Dis-moi.
Bah, Dreamland, Renaud Lemaire, le boss, hein.
Ouais.
La façon dont il a façonné son shonen, la façon dont il l'a retravaillé récemment avec tous ses remasters.
Ouais.
Enfin, l'abnégation de ce type est extraordinaire. La façon dont il a montré que c'est pas parce que je suis pas japonais que je peux pas créer du manga. Pour moi, il a ouvert la voie à tout le monde. C'est la façon dont il est arrivé, il a posé son univers qui est ultra bien ficelé, ultra bien foutu, avec des messages ultra forts sur l'adolescence, sur la façon de gérer ce truc-là.
Ouais.
Enfin, pour moi, Renaud, il m'a surpris de fou furieux quand j'ai rencontré ce gars qui est devenu quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je considère comme un ami. C'est un type qui est chargé d'histoire, qui est chargé de messages, capable de vraiment te donner le sourire et de te dire ça va aller dans ta vie, tu vois. Et vraiment, pour moi, quand un manga est capable de te délivrer ce genre de message là c'est que c'est un très très bon manga.
C'est
et
un très bon manga, je suis d'accord.
Du coup, en manga français, pour moi, t'en as deux qui sont excellents. Enfin, même trois plutôt. T'as Dreamland, t'as évidemment Radiant avec Tony Valente, et t'as Space Punch 2Z.
Ah ouais, Space Punch, tu le mets
dedans. Space Punch, pour moi, c'est le futur.
Ok.
En termes de manga français, Space Punch, pour moi, ça peut aller très, 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 très loin.
Ok. Je partage ton avis sur pas mal de points. T'as lu Outlaw Player?
Non.
Ok.
Du tout.
Je t'invite à.
Ouais.
Shonen, il se bute sur
okay.
les cases. Hein. Franchement,
okay.
c'est assez cool. Qu'est-ce que tu vois, Space Punch, tu viens de le mettre dans tes trois mangas français.
Ouais.
Aujourd'hui, on est au tome 4.
Ouais.
Et tu vois, sur les ventes, c'est pas un manga qui est serein.
Ouais.
Tu vois, il se vend, mais
bien
pas
sûr.
De là à être serein.
Mais pas
à
être en mode, t'inquiète, on signe sur 15 volumes.
Ça prouve une chose, c'est que bien qu'il y ait de la qualité derrière, les mangas français, parce que le côté promotionnel, parce qu'ils ont pas tout le truc japonais derrière, que le marché est différent, c'est difficile. Toi, c'est quoi ta vision, encore une fois, sur le futur du manga français? Comment tu l'imagines évoluer? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour les auteurs?
Bien sûr qu'il y a un avenir. Évidemment, sinon les maisons d'édition ne mettraient pas autant d'argent là-dedans.
Ouais.
Mais surtout, en fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très simple à faire, c'est que déjà, il faut croire en ses auteurs.
Complètement.
Faut croire en ses auteurs, faut croire en ce qu'ils sont capables de véhiculer. Évidemment que t'auras des bouses. Mais comme dans le manga, t'as des énormes bouses, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout condamner. Oui, effectivement, ce n'est pas un japonais qui écrit derrière. Mais pour moi, en fait, c'est quelque chose qui peut être totalement différent et qui peut même encore plus te toucher. Parce que, tu vois, par exemple, je pense à Silence. Qui est sorti récemment, qui a sorti son tome 2 récemment,
ouais.
Qui pour le coup a un message super fort, qui va t'amener d'un point A à un point B d'une manière très particulière, et qui du coup en fait te montre que c'est pas parce que tu n'es pas un japonais que tu n'as pas des schémas narratifs qui peuvent être complexes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le manga français peut être trop simple, mais enfin Dreamland en aucun cas c'est simple, vraiment. Enfin ça, les premiers abords. Et la façon de t'amener dans l'univers va être simple, mais par contre, il y a une quantité de connexions à faire avec d'autres personnages, des rapports et autres qui sont ultra compliqués à trouver, tu vois, au premier abord. Donc du coup, pour moi, il y a un vrai côté où il faut se rendre compte que le manga français peut être tout aussi bon qu'un manga japonais. Et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas de cet avis-là, parce qu'en fait, ils ne sont pas curieux. En fait, ils ne vont pas lire ce qui sort. Mmh. Et du coup... Moi, pour moi, tu sais, c'est un peu comme Twitter ou autre. Il y a Twitter qui va te sortir, ouais, ce truc, il est éclaté au sol. Mais en fait, ils ont jamais lu le truc, ils ont jamais rien regardé sur ce truc-là.
C'est réel.
Tu vois, par exemple, moi, quand je vais critiquer quelque chose, typiquement, je pense à Kagurabashi, que j'ai pas du tout apprécié. Et qui pourtant, tout le monde était en mode, c'est le nouveau truc du job, ça va être une dinguerie, machin et tout.
Il y a des beaux dessins, mais je suis pareil.
Et moi,
pas
je suis en mode, bah, ok, c'est cool, mais bon, on souffle, quoi. Moi, ça m'intéresse pas, je me sens pas dedans et tout.
Okay.
Là, tu vois, j'ai lu Astronova, le truc de
Tokyo Revenger. Ouais, j'ai vu que t'avais fait un tweet,
Bah, je suis beaucoup plus emballé, parce que, en fait.
Que Tokyo Revenger.
Oui, que plus, okay. Oui, déjà. Mais il a un début qui est plus efficace, ça fonctionne bien, ça peut vraiment fonctionner aussi.
Okay.
Mais c'est pas pour autant que je vais arriver et dire que Kagurabashi c'est de la merde.
Bien sûr.
Je dis juste que moi, personnellement, de mon côté, c'est pas un truc qui arrive à me galvaniser, qui m'arrive à me toucher. Parce que le mec émo, avec sa cicatrice qui va venger son père, on en a déjà vu 92 000. Et au bout du 12e chapitre, t'es là, t'es en mode, ok, d'accord, mais. Bah, c'est encore la même sauce, quoi. Et moi, ouais, c'est bon, à un moment, je vais pas vous mentir que ça me.
Ok, ça me va comme réponse.
Mais pour moi, le manga français peut complètement avoir sa place. Et surtout, il faut à un moment aussi que les maisons d'édition, sur ce point-là, se bougent et mettre plus d'argent, en fait, dessus.
Ouais.
Moi, pour moi, il y a un manque de promotion aussi. Il y a un manque de promotion, il y a une envie de ne pas forcément bloquer trop de budget, de se dire, de toute façon, ça va flopper.
De faire les choses à moitié, en fait.
Moi, il y a certains mangas où j'ai un peu l'impression que ça fait les choses à moitié.
Je trouve que Silence est un peu l'exception. Ou ouais. Onera même.
Ouais, oui, oui. En vrai, Silence
c'est
a été.
Qui ont... Silence, il est passé à Combini, il est passé
ouais.
sur plein
de. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Cool. Il y a eu beaucoup de choses. Bah ouais, mais en attendant, regarde. Le tome 1, il s'est super bien vendu.
Eh oui. Il y a pas de secret, hein.
À un moment, on va pas se mentir, hein. Tu sais, aujourd'hui, quand on parle de récession dans le monde du manga, tout le monde te dit, ouais, on coupe les budgets marketing, les budgets sponsors et tout. C'est le pire truc à faire. Ton manga, en fait, genre. Comme c'est ce que je te disais un peu en off, t'as 115 mangas qui sortent par mois. Mais ton manga, en fait, il va juste être noyé.
Ouais.
Donc tu vas faire encore moins de ventes parce qu'il y a encore trop de choses qui sortent.
Il n'y a que les grosses licences qui vont partir.
Et voilà.
Ouais, je comprends. On va arriver sur la fin de l'interview. Ça implique deux questions.
Dis-moi.
La première, c'est une recommandation d'un contenu à consommer qui peut être de tout type.
Ouais.
C'est-à-dire même une chaîne radio, hein, si t'as envie. Mais ce que tu veux, mais qui t'a profondément marqué. Tu vois, un truc qui a eu un impact sur toi. Et sur la manière dont tu fais ou tu vois les choses.
Si je devais te donner un manga quand même, je pense que je te dirais Naruto. Parce que c'est ça qui a forgé quand même beaucoup de valeur dans ma vie. Et sinon, t'as un truc qui m'a beaucoup marqué. Et là, c'est plus en rapport avec la musique. Je joue du saxophone à côté.
D'accord,
je savais pas. Et en fait, je suis asthmatique.
Okay.
Et en fait, le saxophone m'a montré que ce n'est pas parce que tu as une maladie respiratoire que tu ne peux pas en jouer. Et ça, pour le coup, tu peux même le relier par exemple à Blue Giant aussi, hein, qui est un manga de jazz et autour du saxophone chez Glénat.
Qui était au cinéma
il y a pas longtemps. Et donc, ouais, je dirais du coup le jazz en règle générale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'invite à beaucoup de gens à écouter parce que.
Ok, vas-y, cite-nous une personne que tu écoutes régulièrement en jazz.
Boris Vian.
Boris Vian, ok.
Boris Vian qui est un
qui
est aussi bien. Ouais, qui est littéraire de ouf, okay, mais qui jouait notamment de la trompette, et qui est, okay, qui est un truc que je partage beaucoup avec
ma
maman.
Ah, ça explique typiquement le piano à cocktail et toutes les références musicales dans ses livres.
Par
okay.
exemple.
Ok, ça fait du sens.
Voilà.
Trop bien. Et on va passer sur la dernière question. Même si tu en as déjà donné un ouais. Au début d'émission, j'aimerais que tu partages un conseil que tu aimerais te donner, tu vois, que tout type, hein, franchement.
En conseil? Si tu es convaincu que ton idée est bonne, même si on te dit à côté que ce n'est pas le cas, vas-y, tente. Mm. Parce qu'en fait, mine de rien, je pense qu'aujourd'hui, même si on te dit que, par exemple, tu vois, genre, le milieu de l'influence, il est bouché, le milieu du streaming, il est bouché, le truc, il est bouché.
Si t'écoutes, si... en fait, tu fais pas.
En fait, voilà, c'est ça. Si tu écoutes en permanence, tu ne vas jamais le faire. Tu vas rester bloqué dans tes sentiers battus, en fait. Pour moi, le vrai conseil aujourd'hui, c'est de croire en soi et d'aller jusqu'au bout de son truc. Il y a pas de à un moment il faut prendre le taureau par les cornes de toute façon. C'est en fait c'est la chance ne va pas se pointer. Tu sais on parle beaucoup de la chance dans le parcours d'un influenceur ou d'une personne qui devient connue ou ce genre de choses-là. Alors oui, évidemment la chance fait partie intégrante.
Mais c'est ça et
mais tu la provoques aussi
exactement.
À un moment.
Louis-San, il l'avait très bien résumé sur l'épisode que j'ai fait avec lui, c'est il a dit la chance c'est une vidéo qui buzz. C'est pas ça qui fera que tu marches.
Non.
Genre, c'est la régularité.
Tu peux buzzer une fois. Mm. Mais si t'arrives à buzzer 10 fois derrière.
C'est pas de la chance.
C'est pas de la chance.
Clairement. C'est exactement ce qu'il a dit. Et je trouve que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Merci beaucoup, Bitel.
Mais merci à toi.
Et je remercie également, je l'aurais sûrement également fait dans l'intro, mais je remercie Gak et Winnie qui nous accueillent aujourd'hui pour ce tournage. Et ça fait hyper plaisir. Et merci d'avoir fait le déplacement.
Mais merci beaucoup. C'était super cool. J'ai adoré.
Bah, avec grand plaisir. Et puis à une prochaine.
Avec plaisir.
Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour tout cela, je vous en remercie. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram à pslp.podcast. C'est là où on est le plus actif. Et vous pouvez également soutenir le projet via Tipeee. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau chapitre de Pain sur la planche.